Merci beaucoup d'être venu. C'est un aller-retour éclair, je crois.
Ben moi, j'ai un tapis volant parce qu'il y a des grèves en ce moment. Donc, les trains ne marchent pas. Donc, j'ai commandé un tapis volant et je le reprends tout de suite après. J'aurai à peine le temps de vous faire un au revoir. Hop, je repars, mais je suis là, ce qui est déjà assez miraculeux.
Tatiana de René, est-ce que l'époque dans laquelle vous vivez vous agresse ? Je vous demande ça parce que en fermant votre livre, après l'avoir lu, j'ai trouvé qu'il y avait une telle intensité. Vous abordez des sujets qui sont à la fois tout à fait modernes et en même temps vraiment récurrents. La famille, le secret. Mais je trouve que vous avez l'art de la description de la violence qui ne se voit pas. Et je me suis demandé s'il y avait un lien avec l'époque dans laquelle nous sommes, avec l'ambiance dans laquelle nous vivons, française et américaine. Donc je voudrais savoir quel regard vous avez sur l'époque dans laquelle vous vivez.
Je pense que écrire déjà, c'est mettre des mots sur peut-être une crainte. Je dirais pas jusqu'à dire une peur. C'est peut-être essayer de donner une vision, en tout cas qu'on a, d'une époque. Et dans ce livre, ce qui était important pour moi, c'était à la fois de décrire la puissance de la nature, la force de la nature contre laquelle on ne peut rien faire. Nous qui sommes maintenant dans un monde tellement rapide, où la technologie est à bout de nos doigts, où nous avons toutes les infos tout de suite, nous sommes assaillis en permanence d'infos souvent très anxiogènes. Et de l'autre côté, nous avons cette nature qui est à la fois un refuge et une source d'inquiétude, puisque nous vivons à un moment où le réchauffement climatique est un réel problème, où les tempêtes, les orages, les cyclones, les inondations sont un réel problème. Donc, je dirais que je ne me sens pas agressée, parce que ce n'est pas vraiment une agression. Mais je dirais que j'ai envie par l'écriture d'exprimer cette intensité dont vous parlez, pas par des vertus thérapeutiques ni des choses comme ça, mais vraiment pour essayer peut-être de comprendre ce monde dans lequel on vit, sa complexité, ses mystères, parce qu'il y a finalement plein de choses que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, et je ne prétends pas à vous donner des réponses. Hein. J'essaye de vous faire partager un moment, ouvrir les yeux, réaliser certaines choses, mais je ne suis pas donneuse de leçons. Donc, c'est vrai que c'est un roman intense, mais je suis quelqu'un d'assez intense aussi, donc le jour où j'écrirai un roman relax, je crois que mon entourage s'inquiéterait beaucoup, en disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle a... »
Mais du coup, cette écriture, elle vous aide aussi à mettre des mots sur ce que vous ressentez, ce qui vous imprègne tous les jours. C'est-à-dire que c'est à la fois une histoire et puis en même temps, c'est un langage que vous inventez. Je vous parle de ça aussi parce que vous êtes bilingue. Est-ce que c'est votre langue maternelle, est-ce que c'est l'écriture finalement ?
Oui. Vous avez raison, et c'est pour ça que je n'arrive pas à choisir entre l'anglais et le français, puisque j'ai une mère anglaise, pas américaine. Hein. Elle ne serait pas contente.
non, mais vous connaissez bien les États-Unis.
Very British, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai deux langues d'écriture, en fait. Je ne peux pas choisir. Et tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans, des romans à l'âge de 10 ans, parce que j'avais envie et besoin de raconter des histoires. Alors, c'est vrai que ce que j'ai pu écrire très jeune n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant. Ceci dit, c'était toujours des histoires âpres. C'était toujours des histoires où il se passait des choses graves. Donc j'ai compris maintenant que je suis très grave dans mes livres et plutôt légère dans la vie. Je suis quelqu'un d'assez drôle. Les gens sont toujours persuadés, surtout après Elle s'appelait Sarah, les gens se disaient « Tatiana de René est une femme très digne, un peu sinistre, genre une espèce de Mater Dolorosa qui écrit sur des choses assez terribles. » Et donc, et comme j'ai un visage un peu austère quand je ne souris pas,
les gens... Comme vous souriez toujours, ça
ne se
voit
pas. Oui, mais comme je souris beaucoup, les gens comprennent assez vite qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez drôle. Et ça ne transparaît pas toujours dans mes livres, quoique, mais C'est vrai que l'écriture me permet d'explorer à fond ce qui me tient à cœur, sans que ce soit particulièrement mon histoire, puisque je ne fais pas partie de ces romanciers qui racontent leur vie. Il y a beaucoup de romanciers et de romancières qui font ça très bien, comme vous le savez. Moi, je me cache toujours un peu dans certaines parties de mes livres, mais j'ai besoin de mettre à nu, je dirais pas des blessures, je dirais pas non plus des choses très graves, mais là où ça suinte, en fait, si j'écris, c'est parce qu'il y a un petit grain de sable et que j'ai besoin d'en parler, et ce livre-ci, et en somme toute, même si la famille Malgarde n'est pas la mienne, est un livre très personnel.
C'est-à-dire ?
parce que j'étudie les mécanismes familiaux, et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Je racontais, il y avait un charmant chauffeur qui nous a emmenés ici de l'aéroport, et je crois qu'il avait envie de poser des questions à un écrivain, parce qu'il ne doit pas en croiser peut-être beaucoup dans son taxi. Et donc m'a demandé, en fait, pourquoi j'écris, comment j'écris, pourquoi j'écris sur tel ou tel sujet, et je me suis rendu compte que j'écris, en fait, je mets des mots dans la bouche de gens qui n'en ont pas, qui n'arrivent pas à trouver les mots pour dire ce qu'ils ressentent. Et moi, je sais ce qu'ils ressentent, parce que c'est comme si, en fait, j'étais branchée dans leur tête. Et donc, si eux n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent, moi, je sais. Et j'ai compris ça. En fait, j'écris sur le non-dit, j'écris sur les mots qui ne sont pas prononcés, et j'ai toujours fait ça. J'ai fait ça dans Elle s'appelait Sarah, j'ai fait ça dans Mocha, j'ai fait ça dans Boomerang, j'ai fait ça dans Rose, j'ai fait ça dans Encre russe, et je le fais encore plus ici, même si ce n'est pas moi. C'est quand même moi, quelque part. C'est mon émotionnel.
D'ailleurs, je trouve que ça se sent, puisque vous utilisez assez peu le dialogue.
Pas très peu de dialogue.
Vous écrivez finalement comme si vous racontiez, comme si vous aviez été témoin. Enfin, c'est la sensation que...
Mais c'est exactement ça. C'est comme si, en fait, j'avais un accès privilégié à l'intérieur de la tête de mes protagonistes, à leur insu, bien sûr, mais comme si j'étais capable de voir et de comprendre tout ce qu'ils ressentent, toute leur douleur, leurs secrets, les choses qu'ils n'arrivent absolument pas à exprimer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ce terreau-là, quand il est dans notre esprit, quand on a une pensée, par exemple, comment elle s'exprime oralement. Et souvent, elle ne s'exprime pas parce qu'on n'ose pas et qu'on a peur de dire les choses, ce qui est beaucoup le cas de ce livre, c'est la peur de dire les choses. Et donc, je me suis beaucoup intéressée ici, j'ai vraiment creusé ce sillon-là, et ça a été une expérience très riche pour moi. Beaucoup de mes lecteurs pensent que la famille Malgarde est la mienne, que Paul est mon père, que Lauren est ma mère, que Lyndon est mon frère ou mon fils, et j'en réponds oui et non. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé ces personnages, j'avais l'impression de vivre avec eux, et donc, encore aujourd'hui, ils sont avec moi. Ils sont là.
Est-ce que, pour faire référence justement à Paul, ce personnage assez majeur qui est le père dans votre livre, est-ce que l'écriture est votre arbre ? Est-ce que finalement, dans ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est l'endroit où tout ce qui va être grave va trouver une forme de protection, de sérénité ?
Oui, c'est vrai. Donc, Paul était un grand arboriste. C'est donc le père de mon héros. Il a 70 ans. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des arbres. C'est un grand taiseux. Il ne sait pas dire grand-chose. Il est capable de vous parler pendant une heure de l'histoire d'un arbre, mais il ne sait pas parler de lui-même. Il préfère vous parler de David Bowie, qui est une autre de ses passions. Et c'est vrai que l'arbre a un rôle très important dans ce livre, parce que l'arbre est une espèce de sentinelle, en fait. L'arbre veille sur nous depuis toujours. Nous avons tendance à le déconsidérer, à ne pas comprendre à quel point les arbres sont des écosystèmes à part, à quel point ils poussent lentement. D'ailleurs, le vrai héros de l'arbre, c'est un tilleul qui a 300 ans. Vous vous rendez compte, 300 ans ? Nous, notre vie, elle passe comme ça. Le tilleul, il a 300 ans derrière lui. Et l'écriture, quelque part, pour moi, c'est une sorte de refuge. Mais c'est aussi une mise en danger, parce que chaque livre, c'est ce que je disais à l'une d'entre vous tout à l'heure, chaque livre est une mise en danger. Je discutais avec un ami écrivain l'autre jour qui me disait que lui faisait très attention à ses lecteurs, dans le sens où il ne voulait pas décevoir ses lecteurs, et donc il voulait faire toujours un peu la même chose pour ne pas sortir de sa zone de confort et de ne pas bouleverser son lecteur. Donc ça, c'est son choix et je le respecte. Mais moi, je trouve qu'un vrai artiste doit savoir prendre des risques. Parce que si on endort son lecteur en permanence, c'est comme une autoroute. On est dessus, on ne voit même pas les péages, on ne voit même pas le paysage, on est sur son autoroute. Et moi, j'aime prendre les chemins de traverse. J'aime tout d'un coup qu'il y a un orage, qu'il pleuve beaucoup, qu'il faut faire attention. Donc je trouve que l'écriture est à la fois un refuge et une mise en danger. Et tant que j'aurai la force d'écrire et tant que j'écrirai, ça sera toujours ça pour moi. Et donc, au risque peut-être de vous décontenancer, de vous surprendre, de vous choquer ou de vous déplaire, parce qu'après tout, vous avez le droit de ne pas aimer, ben je continuerai ce chemin un peu audacieux pour ne pas rester dans un territoire trop familier qui m'obligerait finalement à toujours faire la même chose.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un ouvrage militant de plein de façons? Il y a beaucoup de points de vue, y compris dans l'acceptation du temps qu'il faut pour accepter son identité, dire qui on est. Mais il y a beaucoup de sujets dans votre livre que vous abordez. Donc, est-ce qu'on peut dire que cet ouvrage-là est militant?
Alors attention, parce que je trouve que militant, j'aime pas tellement le mot.
D'accord.
Mais je suis très militante sur les réseaux sociaux où il m'arrive de défendre des causes qui me tiennent à cœur, des causes
Pourquoi
politiques.
Pourquoi vous n'aimez pas le
mot? Parce que je trouve que si on dit qu'un livre est militant, oui. ça a presque pour moi une connotation de propagande.
Je comprends.
Et je préfère dire qu'un
livre... Il est engagé peut-être?
Oui, ou alors que c'est comme une bouteille à la mer et qu'il y a un message dedans et que je jette cette bouteille et que s'il y a des gens qui trouvent cette bouteille et qui comprennent et acceptent et sont émus par le message, ben j'ai gagné. Et puis s'ils ne trouvent pas la bouteille et qu'ils trouvent que le message, ça ne leur parle pas, alors j'ai peut-être perdu, mais... Vous voyez, c'est plutôt une histoire de partage pour moi. Le terme militant, je vois ce que vous voulez dire, parce qu'effectivement, c'est un livre qui explore toutes ces questions. Mais je dirais que c'est plus quelque chose que j'ai envie de partager, que j'ai envie de donner. C'est plus donner quelque chose. Et pour moi, ça passe toujours forcément par l'émotionnel. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse être que le militantisme soit quelque chose de forcément très émotionnel. Voilà.
Est-ce que ces personnages que vous arrivez à faire parler, en tout cas à qui vous arrivez à donner des mots auxquels ils n'auront pas forcément accès, est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que dans la vie, il vous arrive de croiser des gens et de deviner ce qu'ils ne savent pas encore ou ce qu'ils n'arrivent pas à dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez au quotidien ou qui apparaît quand vous êtes en train d'écrire?
Alors, je dirais qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, je ne remarquais pas tellement ce genre de choses, mais en prenant de l'âge, l'écrivain est un mélange entre une éponge et un vampire, en fait. C'est-à-dire qu'on se nourrit beaucoup des gens qu'on rencontre, qu'on écoute tout simplement, à votre insu, bien sûr. Hein, vous inquiétez pas, on ne vous fera pas jamais mal, ça ne se verra pas. Hein, il n'y aura pas des traces de dents dans votre cou. Et puis, je ne me permettrai jamais non plus de prendre l'histoire de quelqu'un et d'en faire un roman. J'ai trop de respect pour la personne qui est en face de moi. D'autres écrivains ont fait ça, à leur dépens, on le sait. Mais j'ai appris à reconnaître la richesse d'un silence, en fait. Je ne vous parle pas de la personne qui vient à une dédicace et qui vous dit « Madame Dorné, ma vie est passionnante, j'aimerais que vous fassiez le roman de ma vie ». J'en ai, hein. Je reçois d'ailleurs pas mal de courriers en ce sens aussi. Non, je vous parle des gens qu'on peut rencontrer et qui connaissent mon métier ou pas, d'ailleurs, avec qui je peux avoir des conversations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on ne dit pas et ce que je lis dans les yeux des gens. Je suis devenue assez spécialiste du décryptage du silence, en fait. Et le silence est plein de choses. Pourquoi on ne parle pas, finalement? Pourquoi on n'arrive pas à dire les choses? Pourquoi les choses se lisent tellement dans les yeux des gens et dans leurs gestes et pas dans ce qu'ils disent? Et ça, c'est quelque chose qui est venu assez tardivement dans ma vie, on va dire, depuis les 5-6 dernières années, vous voyez.
Et vous, Tatiana de René, vous parlez aussi facilement que vous écrivez?
Moi, je suis assez bavarde. J'étais une petite fille très timide. D'ailleurs, ma mère est toujours très étonnée de voir la pipelette que je suis devenue. Elle me dit quand je pense, que tu vas en voir tous ces gens, que tu parles, que tu passes à la télé en direct chez Monsieur Delahousse avec Carole Bouquet, alors que dans ma tête, je vois cette petite fille timide dans son coin qui suçait son pouce, qui voulait pas venir dire bonjour. Donc, peut-être que l'écriture a libéré la parole chez moi, je ne sais pas, mais bon, j'aime bien aussi beaucoup écouter, hein. Et j'aime beaucoup faire parler les gens et les questionner. Et j'ai été journaliste longuement, comme vous, à une époque. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé faire parce que je pouvais poser plein de questions à des gens sans qu'ils se disent « Pourquoi elle me pose toutes ces questions ?»
À quel moment vous écrivez en anglais, en français ? C'est lié à quoi ? À la thématique ? À l'endroit où vous êtes au moment où vous écrivez ? Comment est-ce que certains de vos livres sont anglo-saxons et d'autres?
Alors ça, c'est une question qui fascine et j'essaye de trouver une réponse pertinente à chaque fois. Alors peut-être que ça peut vous aider quand je vous dis que je ne sais pas dans quelle langue je rêve, par exemple. Je ne sais pas dans quelle langue je compte. Je sais dans quelle langue je jure, c'est l'anglais. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc un livre... s'impose dans une langue sans que je la décide. Alors, comme on m'a tellement posé la question, j'ai décidé de décrypter la chose. Je crois que pour moi, l'écriture est venue à travers la lecture. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes des lecteurs. Donc, vous connaissez l'importance de la lecture, vous connaissez le pouvoir des mots. Donc, je me suis laissée entraîner dans l'écriture parce que j'aimais lire et que j'avais envie d'écrire quelque chose à mon tour que je pouvais partager. Et quand j'ai commencé à faire ça à l'âge de 10 ans, c'était en anglais. Pourquoi ? Tout simplement, je pense, parce que je vivais géographiquement déjà aux États-Unis, puisque mon père enseignait là-bas, parce que toutes ces premières lectures dont je vous ai parlé étaient en anglais. Et donc, spontanément, la langue est venue en anglais. Mais je n'y ai pas pensé sur le moment. Je n'étais pas en train de me dire « j'écris en anglais ». J'avais conscience d'écrire. Et après, le français s'est réinvité dans ma vie plus tard. Je ne sais plus très bien pourquoi. Je crois qu'il y a un roman que j'ai... Là, je vous parle de choses qui n'ont pas été publiées. Mais il y a un roman en français qui s'est imposé. Et puis, en fait, j'ai arrêté de me poser la question de pourquoi j'écris en telle ou telle langue, parce que j'ai peur, quelque part, de contaminer ou de dérégler le mécanisme interne de l'écriture qui est déjà assez compliqué et sophistiqué. Et je me suis dit, si je me pose trop de questions sur pourquoi et comment j'écris en telle langue, à tel moment, dans quel lieu, ben, j'écris plus. C'est comme si on se regardait, en fait. Déjà, écrire un livre, il faut se sentir très seul, bien tranquille, pas avoir tous ses yeux sur vous. Donc, je laisse venir. Alors, je peux vous rassurer, il n'y a que deux langues pour le moment. Hein. Ça ne va pas être du russe, de l'italien ou autre chose. Ça va rester de l'anglais et le français.
Vous avez un de vos personnages dans ce livre qui est confronté à cette question-là, vraiment, d'être bilingue. Et en fait, on sent bien qu'il est... C'est pas que la langue, hein, le partage. Il y a de vous dans...
Oui, bien sûr. Donc, mon héros Lyndon est franco-américain. Il a appris les deux langues comme moi. Il parle français à son père, anglais à sa mère, franglais à sa sœur, un peu comme moi. C'est très difficile de comprendre pourquoi une langue empiète sur l'autre. Et parfois, quand je n'ai pas eu assez d'anglais dans la journée, j'ai l'impression que mon anglais est rouillé. Quand je suis en Angleterre et que je ne parle pas assez français, j'ai l'impression que mon français est rouillé et que j'ai un accent. C'est complètement fou. Alors que je n'ai pas d'accent quand je parle français et je n'ai pas d'accent quand je parle anglais. C'est tellement...
C'est inconfortable.
Oui, c'est très inconfortable, en fait, parce que parfois, quand je suis avec quelqu'un de totalement bilingue, on ne sait jamais dans quelle langue se parler. On commence en anglais, et puis tout d'un coup, on repart en français. C'est un casse-tête, et en fait, ma vie est un casse-tête. Je suis un casse-tête pour les libraires qui ne savent jamais sur quelle table me poser, parce qu'il y a écrit traduit de l'anglais sur la moitié de mes livres, mais sur les autres, c'est écrit en français, donc ils ne savent jamais quoi faire. Alors, la FNAC, ils ont décidé de tout mettre en littérature anglo-saxonne, même si j'ai écrit Manderley Forever en français, ben c'est pas grave, on le met en littérature anglo-saxonne. Bon, chez Mola, je ne sais pas comment ça se passe, sur quelle table je suis. Je suis un casse-tête pour mes traducteurs, parce que du coup, ils ont peur. Parce que je suis traduite dans plein de langues que je ne lis pas. Mais là, ma traductrice, c'est pas facile pour elle. Et puis mon traducteur français-anglais, c'est pas facile pour lui non plus, parce que... Alors vous allez me dire, mais pourquoi Tatiana, vous ne vous traduisez pas ? Et je vous répondrai tout simplement que ce n'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est un traducteur. C'est vraiment un métier à part. Et puis en plus, moi, ça veut dire réécrire le livre. Déjà, je mets 2 ans à le faire. Donc, en plus, je n'aurais pas la distance nécessaire. Je me dirais, alors pourquoi j'ai fait ça? Je peux bidouiller parce que c'est moi l'auteur. Donc du coup, ce n'est pas le même livre. Mais quand la traduction arrive, c'est toujours un moment très, très compliqué pour moi. C'est comme si je voyais une photo de moi que je ne reconnais pas, en fait. Et donc, je dois y mettre un peu ma patte. Et la traductrice est toujours assez sympa avec ça. C'est qu'elle me laisse mettre ma patte. C'est là que je lui dis, là, non, c'est pas comme ça. Et c'est pas, donc, heureusement, mais j'ai conscience d'être un cauchemar pour les traducteurs.
Pour sortir de cette boucle, vous avez déjà imaginé, envisagé, même une fraction de seconde, d'apprendre une troisième langue?
Ah, mais j'apprends. Alors, je baragouine un peu espagnol, italien. Mais pas assez pour me...
Vous cherchez une planque, alors, quand même?
Mais j'apprends le russe.
D'accord.
Oui, parce que je suis quand même un quart russe. Alors, je suis capable de vous dire « Как дела? Здравствуйте! Меня зовут Татьяна!» Voilà, il paraît que j'ai un très bon accent. Ma prof de russe est très contente. Alors là, c'est vrai que j'ai mis un peu sur pause, parce que le russe, c'est carrément une autre langue, je veux dire un autre alphabet. Mais j'étais bien partie. Et donc, je vais reprendre le russe, mais je ne suis pas du tout sûre d'écrire un roman en russe. On va laisser ça à Dostoïevski, Tolstoï.
Vos personnages, la fratrie, portent le même prénom, traduit différemment, mais le même prénom, et c'est celui d'un arbre. C'est symboliquement celui, donc finalement, de quelque chose qu'on plante, qui pousse et qui ne meurt jamais ou rarement. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de tilleul qui a été traduit pour les prénoms de vos personnages? Vous avez rencontré un tilleul, vous êtes tombée amoureuse
oui,
d'un tilleul?
Oui, vous savez tout. Je voulais un ancrage, justement, on parle de racines, puisque c'est l'histoire de famille, et qu'on parle d'arbre familial, je voulais un arbre, et je ne savais pas très bien lequel choisir, mais il y a un tilleul dans ma vie depuis un certain temps. Je ne vais pas dire où, parce que je ne veux pas qu'on vienne le voir, parce qu'il est à moi et je suis très possessive avec ce tilleul. Mais j'avais envie de montrer aussi la beauté d'un arbre. On ne se rend pas compte, on les voit comme ça. Ils font partie de notre vie et on ne se rend pas compte de leur rythme à eux et de l'effort qu'ils font pour être en vie, en fait, de survivre aux tempêtes. De survivre à la sécheresse, aux maladies. Et donc le tilleul est un arbre qui m'a plu, parce que d'abord j'en ai rencontré un, et ensuite je trouve que le tilleul au printemps, je pense que vous avez dû voir, hein, croiser un tilleul dans votre vie au printemps, c'est quand même une odeur extraordinaire, ces abeilles qui viennent butiner dedans, ces feuilles avec ces petites graines. Et donc Linden, ça veut dire tilleul en anglais et en allemand. Tilia, qui est le nom de sa sœur, ça veut dire, c'est le nom latin du tilleul. Donc, très naturellement, cet arbre a pris une place très importante dans le livre. Et d'ailleurs, tout le livre s'enracine autour de lui. Il est question de crue, bien sûr, dans mon livre, mais il est aussi question d'un arbre.
Et donc, ce choix d'avoir donné un prénom comme ça, qui est rattaché à la terre, qui finalement est assez résistant, peut-être symboliquement aussi, peut-être en amour, ça représente quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là dans la famille.
En fait, pour moi, c'était surtout aussi montrer, puisque le père est arboriste et le fils est photographe, ils viennent de 2 mondes très différents. Le fils sillonne la terre entière pour photographier des hommes politiques, des stars, et le père sauve des arbres. Et ils n'ont pas grand-chose en commun, même s'ils s'aiment. Et donc, en fait, c'est le père qui a choisi le nom de ce fils. Et ce fils va petit à petit se rendre compte, pendant toute l'éclosion du livre, parce que c'est vraiment un livre qui éclot très doucement, tel une fleur. Hein. Ce n'est pas un livre qui a un rythme rapide. Il monte au même rythme que cette crue très lente de la scène et comme une fleur qui s'ouvre. Donc, le fils va se rendre compte petit à petit... Pourquoi sa sœur et lui s'appellent de ces prénoms-là? Et c'était aussi pour moi une façon de parler d'un message que le père a peut-être essayé de faire passer à ses enfants. Et les enfants vont s'en rendre compte pas trop tard, heureusement, mais un peu la dernière minute.
Et l'eau, ce personnage de l'eau qui est vraiment si présent, si fort, si angoissant. Vous parliez de nature tout à l'heure avec donc, la présence d'un arbre, d'un spécialiste des arbres. Très bien. Mais donc cette nature qui envahit le livre, l'histoire, les secrets. Quel rapport vous avez avec l'eau ?
Alors moi, j'ai un rapport personnellement très paisible avec l'eau. Je suis d'ailleurs mariée à un monsieur qui est poisson. Mais c'est vrai que je suis parisienne et j'ai toujours été fascinée par les fleuves et notamment la Seine. Je ne savais pas qu'elle allait se mettre en crue deux fois pendant l'écriture de ce livre, parce que j'ai eu l'idée en 2014. Et elle s'est mise en crue une première fois de façon spectaculaire en juin 2016. J'en revenais pas. J'osais pas trop en parler parce que j'avais qu'une trouille, c'est qu'on pique mon idée. Vous savez, les romanciers sont des gens très parano et je me suis dit, si je parle beaucoup de cette crue, on va comprendre que j'écris dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui écrit beaucoup plus vite que moi, qui va prendre cette idée. Ensuite, rebelote, juste avant la sortie du livre, la scène s'est mise à nouveau en crue. Donc, j'ai été à la fois médusée, un peu inquiétée, parce qu'on parlait tout à l'heure de dérèglement climatique et on sait maintenant que cette scène, un jour, elle envahira Paris. Hein, c'est mathématique, c'est... Ça va malheureusement arriver. Et moi, j'avais envie de parler de la crue, parce que d'abord, dans mon livre, c'est une montée des eaux des sentiments. Petit à petit, cette famille qui se retrouve pour un anniversaire, qui s'aime, hein, bien sûr, on est dans une famille aimante, mais une famille qui est en panne de communication totale, qui ne sait absolument pas se dire des choses à part « Bonjour, comment ça va? Tu veux un café ?» Bon. Donc déjà, l'eau me paraissait le bon vecteur pour accompagner cette montée des eaux familiales. Et puis, la crue est quand même un événement d'une assez grande beauté, même si ça fait peur. Et mon héros étant photographe, je voulais qu'il puisse travailler et photographier cette ville qui va être... D'ailleurs, parce que ma crue va monter jusqu'à 9 mètres, ce qui est quand même beaucoup plus haut qu'en 1910. Donc Paris va se retrouver encore plus sous les eaux qu'avant. Et c'était une image pour moi de... Ça a été très excitant, un peu pervers, je vous l'avoue aussi, de décrire cette ville qui devient comme Venise. On n'a pas besoin de connaître Paris pour imaginer Paris sous les eaux. C'est quand même complètement incroyable de voir ça. Donc je me suis vraiment projetée là-dedans. Et cette eau, elle s'est infiltrée. En plus, j'ai choisi exprès des quartiers que je connaissais bien. Mais ce n'est pas par hasard que j'ai grandi dans le 7e et dans le 15e arrondissement, qui sont les deux quartiers les plus inondables de Paris. Je me dis, il y a quand même une raison. Je pourrais avoir grandi dans un quartier comme 14e, Montparnasse ou Montmartre, qui sont en hauteur et qui sont complètement pas touchés par la crue, qui ne seront jamais touchés par la crue. Mais l'immeuble de mes parents, il y avait une vieille dame qui habitait au 4e étage quand j'étais petite, quand j'avais moi-même 10 ans et que j'avais commencé à écrire, et cette vieille dame du dernier étage m'avait montré une photo d'elle, à l'âge de 10 ans, en train de sortir d'une barque de l'immeuble de mes parents. Elle avait vécu la crue. Je n'ai jamais oublié cette photo. Et donc, cette histoire d'eau, puisque c'en est une, je savais que j'allais un jour l'écrire. Donc, c'est pour ça, il m'a fallu attendre tout ce temps pour avoir l'histoire de famille que j'allais pouvoir tisser, parce que je n'allais pas parler que de la crue. J'allais aussi parler d'une famille en crue. Et donc, il m'a fallu attendre de trouver mes personnages, de trouver leurs secrets, leurs problèmes, tout ce qu'ils avaient à se dire pour tisser ce roman.
Dans votre livre, vous faites un pont très intéressant entre le fait que l'eau est à la fois effectivement quelque chose de purifiant, apaisant, délicat, assez beau, et en même temps quelque chose qui peut être très violent, très dévastateur, contre lequel on ne peut rien faire, qui est un élément d'une force indiscutable, et la famille qui a à la fois l'attente de se retrouver et l'incompréhension de se retrouver, des habitudes et des espaces tout à fait inconnus les uns par rapport aux autres, la possibilité de converser sans se comprendre, enfin qui a exactement ces mêmes extrêmes. Votre livre souligne ces deux ponts. Ça ne pouvait pas être autre chose qu'une histoire de famille, cette histoire d'eau ?
Ah mais non, en tout cas pas pour moi. Ça aurait pu être une histoire d'amour, mais les histoires d'amour ne sont pas exactement ma spécialité, parce que j'en vis une merveilleuse, et donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Mais peut-être qu'un jour, j'en écrirai une, certainement. Mais
vous aimeriez ça ?
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas du tout dans mes projets. Ceci dit, il y a une belle histoire d'amour là-dedans, quand même. Il y a une très belle histoire d'amour.
Il y en a toujours, hein, directement, oui, dans vos ouvrages.
Voilà.
On parle quand même d'amour, de
bien
toute
sûr,
façon.
On parle d'amour.
Mais là, on est en train de parler de...
Mais là,
de...
justement, j'aime beaucoup cette image que vous avez dite de ce pont, de ces deux ponts. Parce qu'en fait, c'est un livre sur une famille qui, dans ses débordements à la fois émotionnels et physiques de cette crue qui va mettre Paris à genoux, vont être obligés de trouver leur pont. C'est-à-dire que jusqu'ici, ils n'ont pas mis les mots sur leur mot MAUX, ils vont être obligés de le faire, autant la fille, autant la mère, autant le père, autant que le fils. Et c'est ça aussi qui m'intéressait aussi, dans cette configuration-là. C'est comment ce mouvement de d'eau qui monte. C'est pour ça que j'ai beaucoup étudié la crue géographiquement, comment elle se passe, à quoi elle ressemble, parce qu'il fallait que je la voie dans ma tête pour pouvoir accompagner les sentiments de mes héros qui, au début, n'ont pas du tout prévu de se parler de quoi que ce soit, à part de choses agréables, et qui, là, vont devoir y aller. Vraiment, parce que le temps passe, la crue monte, et on peut peut-être dire que le père donc a un gros problème médical au début du livre, donc il va se retrouver à l'hôpital, et c'est son fils qui va se retrouver à son chevet, qui va être un peu sa sentinelle à un moment, et il va se rendre compte qu'il a une fenêtre de tir très courte pour parler à son père. Donc, est-ce que finalement, il va trouver le courage de lui dire qui il est, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils s'aiment, mais ils ne se disent rien. Alors vous allez me dire, mais Tatiana, c'est la même chose en Boomerang. Oui, un peu. C'est une famille... Les familles, souvent, s'aiment, mais ne savent pas se le dire. Et donc là, ils vont être obligés de dire les choses. Et j'accentue encore plus le problème, puisque Paul ne peut pas parler. Suite à cet accident qu'il fait, cet AVC, il ne peut pas parler. Donc comment est-ce que Lyndon, qui déjà a affaire à un père totalement taiseux, comment il va prendre la parole ? Comment il va dire les choses ? Comment il va trouver les mots ?
Ce personnage que vous rendez muet va tout à fait avec votre curiosité qui n'est pas nouvelle pour le secret.
Bien sûr, sauf que là, c'est vrai que dans beaucoup de mes livres, les secrets étaient là, duraient, le silence durait. C'est le cas de Boomerang d'ailleurs, puisque toute l'histoire de Boomerang, c'est un secret qui revient comme un boomerang et qui risque... Voilà, pas qui abîme une famille, mais qui apporte des révélations. Et là, en fait, le silence va se déliter petit à petit, puisque Lyndon va prendre la parole. Et encore une fois, il n'y a pas de dialogue dans ce livre. Donc c'était un vrai défi pour moi de le faire parler sans dialogue. Alors vous me dites, mais comment a-t-elle fait ? Comment a-t-elle fait ? Donc en fait, c'est un peu comme j'ai fait dans Manderley Forever, si vous avez lu ce livre sur Daphné du Maurier, ou un peu comme si je filmais Daphné en étant à côté d'elle, mais il n'y a jamais de guillemets, on n'entend jamais Daphné parler, mais on est avec elle tout près. Et en fait, c'est ça que j'ai fait ici, exactement comme ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comme si on était un peu dans un espèce de film, en fait. On est le spectateur... d'une parole qui ne vient pas par des guillemets, qui vient par un dialogue indirect que j'ai trouvé passionnant et intéressant à construire. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est passionnant et intéressant à lire, je l'espère, mais en tout cas, ça donne un rythme d'une intensité, d'une lenteur que je voulais vraiment. Parce que parfois, les dialogues, ils sont violents, ils sont... Alors il y en a, hein, il y en a quand même, parce que la sœur de Lyndon, par exemple, elle dit beaucoup de gros mots, et elle s'énerve, et donc il y a un moment où elle sort des trucs, des insultes et des machins, donc... Mais j'avais besoin d'être plus dans l'intensité du moment, en fait, que dans l'immédiateté d'un dialogue.
En même temps, vous avez choisi aussi qu'il y ait, en fil conducteur, un de vos personnages qui soit photographe, oui, donc qui est très visuel,
oui,
pour revenir à ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc on est vraiment dans cette posture, oui, d'observation.
Et je voulais qu'on voit sa vision de photographe, parce que la photographie me passionne. Moi, je ne suis pas photographe du tout, mais j'ai une fille qui est photographe, qui d'ailleurs a fait cette magnifique photo qui est derrière le livre, où vous voyez un arbre et la Seine. Donc vous êtes dans le sujet du livre. Et Et en fait, j'avais envie d'expliquer comment la vision d'un photographe naît. Pourquoi est-ce qu'on devient photographe? Comment et pourquoi quelqu'un, à l'âge de 13 ans, prend des photos qui ne sont pas les mêmes que les autres? Et comment Lyndon, quelque part, se protège aussi derrière son appareil photo? Parce que lui non plus, il n'aime pas tellement parler. Et rien que de mettre un appareil photo devant son visage, c'est un peu aussi se cacher. Mais c'est aussi prendre l'intimité des autres, et je trouve ça fascinant. Donc je voulais qu'on voit sa vision à lui de la photographie, qui est d'ailleurs la vision de ma fille, puisque les photos de Lyndon sont celles de ma fille, sa façon de travailler, sa façon de ne pas travailler avec Photoshop, par exemple, de ne pas aimer les lumières artificielles, de préférer la lumière du jour, d'essayer d'attraper un moment d'intimité avec quelqu'un et pas de faire quelque chose d'artificiel. Ben ça m'a beaucoup intéressée. Et comme j'aime aussi beaucoup la photographie, j'aime beaucoup aller voir les expos de photos, je suis très sensible à ça, et ben j'avais envie d'essayer de rentrer dans l'univers photographique d'un jeune homme qui, là, en plus, est obligé de prendre des photos de ce Paris totalement inédit et bouleversant, parce que je pouvais imaginer, vous vous souvenez, vous avez dû voir des photos de la crue de 1910. Donc, imaginez ce que ça donnerait maintenant en couleur. C'est une autre ambiance, c'est quelque chose de très différent. Donc, je me suis fait plaisir en suivant son parcours visuel à lui.
Comme le silence, du coup, a quand même une présence assez incroyable hein, dans cet ouvrage, j'avais envie de vous demander si vous écrivez dans un silence total ou si vous écoutez David Bowie en écrivant.
Alors, bonne question. J'adore David Bowie, je crois que vous le savez. C'est un artiste que j'admire profondément et je suis content aussi qu'il apparaisse dans le livre parce qu'il était quelqu'un qui avait une différence justement et ce roman parle aussi de différence et d'audace et de création artistique un peu différente. Mais je dois vous avouer que moi j'ai besoin d'un silence absolu pour écrire, mais mon ennemi numéro un à part le bruit, c'est pas le bruit, c'est Internet. Je suis obligée d'écrire sur un ordinateur qui ne fait pas ping, ping, ping dès qu'il y a un mail, une notification Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi. Vous le savez, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, mais c'est impossible pour moi d'écrire un livre avec un ordinateur qui est sur Internet. Donc j'enlève tout simplement le Wi-Fi ou alors j'arrive à trouver des endroits de plus en plus privilégiés où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'Internet. C'est assez incroyable, c'est rare, mais il y en a. Et là, je me sens dans un silence non seulement physique, mais presque moral, puisque je n'ai rien qui puisse me contaminer. Mais c'est les réseaux sociaux, mon ennemi. Mais j'avais écrit dans L'encre russe, justement, un héros qui passe sa vie sur Facebook et qui n'arrive à rien écrire du tout. Il lui arrive toutes sortes de malheurs. Je me suis un peu vengée et amusée. Donc, bruit, oui, mais Internet...
Plus encore.
Ouais, plus encore.
Vous avez choisi David Bowie dans ce livre. La sensation qu'on en a quand même après la lecture de votre roman, c'est que ce n'est pas uniquement parce que vous aimez David Bowie, mais c'est indirectement aussi un langage entre un père et ses enfants. Parce que les textes de David Bowie ne sont pas anodins.
C'est sûr, et c'est ça qui est assez intéressant. Alors Paul Malgard ne parlait très mal l'anglais, il a épousé une Américaine, mais donc à mon avis, il ne comprenait pas totalement le sens des chansons de Bowie. Mais quand Lyndon va essayer de comprendre à l'hôpital si son père réagit ou pas, parce que son père a l'air d'être dans le coma, il ne sait pas ce que son père entend. Et donc, il lui parle, mais il ne se passe rien. Et donc, à un moment, il va prendre son téléphone portable, il va chercher la musique de Bowie, il va la mettre près de l'oreille de son père. Et là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, je ne vous dis pas quoi. Mais c'est Bowie qui va faire naître le dialogue entre ce père qui n'arrive plus du tout à parler, mais qui arrive à ouvrir les yeux, et tout va se passer, je vous parlais de yeux tout à l'heure, ce dialogue entre les yeux du père et les yeux du fils est pour moi un des passages les plus importants. Et vous voyez, même en parlant, j'ai les larmes aux yeux en parlant de ce passage-là, parce que ça a été un passage extrêmement émouvant pour moi à écrire.
Mais David Bowie, vous l'avez donné finalement à ce personnage qui a du mal à parler, qui a du mal à s'ouvrir. Finalement, vous lui avez donné presque un double, un alpha, pour avoir le culot qu'il n'aurait pas.
Oui, C'est quand même incroyable que cet arboriste de la Drôme qui passe sa vie à regarder les arbres se soit tellement emballé pour un jeune homme en combinaison bleue, roux, avec une voix incroyable, avec des dents foutraques, et capable d'écrire des chansons que vous connaissez toutes. Oui, c'était un peu un alter ego, vous avez absolument raison. Et ce qui d'ailleurs étonne beaucoup Lyndon, qui, quelque part... a toujours aimé le fait que son père aime Bowie, mais il ne sait pas vraiment pourquoi. Et donc, ça fait partie du puzzle de l'identité, puisqu'ici, je construis ce livre entre ce dialogue de la dernière minute, de la dernière chance, en fait, entre un père et un fils qui ne se sont jamais parlé. Ils s'aiment, mais ils se connaissent pas, ils se connaissent pas leur vie. Pourquoi est-ce que Paul Malgarde aime tellement les arbres? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que Lyndon Malgarde a quitté la Drôme à l'âge de 15-16 ans? Pourquoi est-ce qu'il est allé se réfugier chez un autre membre de la famille qui avait peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit? Pourquoi est-ce qu'il est parti vivre en Amérique? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu photographe? Toutes ces questions auxquelles ce père et ce fils ne se sont jamais penchés, là, ils vont devoir le faire.
Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que pour vous, la famille représente, comme dans votre ouvrage, cette forme d'empêchement qui fait qu'on est très libre d'être soi-même quand on n'est pas en réunion familiale, et que tout d'un coup, quand on revient à cette réunion familiale, on est partagé entre ce personnage qu'on peut être librement ailleurs et celui qui doit répondre à l'image qu'on a d'ordinaire dans cette famille et qui date finalement. Est-ce que ça représente ça pour vous, la famille ?
La famille, je dirais que c'est à la fois un paradis et un enfer. Moi, j'ai la chance de venir d'une famille communicante et aimante. J'ai la chance d'avoir été élevée par des parents tolérants, généreux, qui m'ont appris la tolérance et la générosité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu l'occasion de vivre d'autres moments familiaux beaucoup plus compliqués. Donc, je dirais que la famille, on parlait de refuge tout à l'heure, ça peut être un refuge merveilleux.
C'est le vôtre, en tout cas.
Moi, j'ai énormément de chance. J'ai un père scientifique que vous connaissez certainement, Joël de Ronay, qui est quelqu'un qui nous a non seulement expliqué pourquoi le ciel est bleu et pourquoi il y a des saisons et qu'est-ce que c'est qu'un chromosome, ce qui est toujours assez fantastique quand on est une petite fille curieuse, mais j'ai des parents tolérants et ouverts, et c'est pas le cas. Il y a un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est l'aspect du coming out dans le livre, puisque mon héros va devoir dire à son père qu'il est homosexuel, il ne l'a jamais fait. Et j'aborde dans ce livre des sujets très difficiles, puisqu'il est question à un moment d'homophobie familiale subie par des amis de Lyndon. Et j'avais envie de parler de ça parce que la famille peut être un enfer dans ces cas-là. Je soutiens cette association qui s'appelle justement Le Refuge, qui soutient des jeunes gays victimes d'homophobie, non seulement dans leur lycée, dans leur école, dans leur travail, mais surtout de leur famille, puisqu'ils sont mis dehors par leur famille. Donc, une famille peut être un enchantement, un émerveillement et une sécurité, mais aussi être quelque chose d'assez désastreux. Donc, moi, j'ai voulu montrer que ça pouvait être les deux et qu'on peut arriver à se construire quand même si on a une famille qui n'est pas aimante.
Tatiana de Ronay, Sentinelle de pluie, c'est une déclaration d'amour à votre famille ?
Non. C'est une déclaration d'amour à la nature. Et c'est une déclaration d'amour à la tolérance et à l'ouverture d'esprit.
Merci.
Merci à vous.